L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. Avec d'abord les relations toujours tendues entre la France et l'Algérie. La crise diplomatique a franchi une nouvelle étape cette semaine, Paul Lonsin-Spinelli.
Après 8 mois d'escalade diplomatique, Alger a décidé d'expulser de son territoire 12 fonctionnaires français. En réponse, Paris a pris une mesure similaire.
Le Vatican savait, il connaissait depuis les années 50 les agissements de l'abbé Pierre, les agressions sexuelles dont il est accusé. Un livre-enquête qui vient de sortir a pu avoir accès à des archives du Saint-Siège. Au Canada, les chefs des principaux partis fédéraux ont participé au seul débat en français de la campagne électorale avant les élections du 28 avril. Ce débat, c'était ce mercredi, Nadim Moubarak.
Et c'est le chef libéral Mark Carney qui a été la cible principale des autres chefs.
En Belgique, le gouvernement fédéral a présenté le week-end dernier ce qu'il appelle son accord de Pâques, un budget 2025 et une série de mesures en matière de défense, de justice, de pension, mais aussi de chômage, Joël Meert.
Oui, et dans ce cadre, une mesure phare, la limitation des allocations de chômage à 2 ans maximum dès l'an prochain. Jusqu'ici, la Belgique était le seul pays de l'Union européenne où les allocations de chômage étaient illimitées dans le temps.
Enfin en Suisse, Pierre Anchoffa, la police valaisanne a fermé une autoroute toute une journée cette semaine pour empêcher les gens du voyage de passer.
Oui, une grosse mobilisation policière pour bloquer une quarantaine de caravanes françaises, un épisode qui rappelle le manque de places aménagées pour ces populations nomades.
Et voilà pour les titres de la semaine. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie a donc pris une tournure inédite cette semaine, inédite depuis 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Paul, la présidence française a décidé mardi d'expulser 12 agents consulaires algériens en réponse à une mesure similaire prise par l'Algérie la veille.
Et en plus, la France a rappelé son ambassadeur en poste à Alger pour consultation. Alors à l'origine de ce nouvel épisode dans les tensions entre les deux pays, l'arrestation et la mise en examen d'un employé d'un consulat algérien en France. C'était le vendredi 11 avril dans le cadre d'une enquête judiciaire. L'homme est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement il y a 1 an et sur le sol français d'un influenceur et dissident algérien, Amir Boukors, alias Amir DZ.
Oui, la diplomatie algérienne s'est donc emparée du sujet.
Dans un communiqué, elle a dénoncé l'attitude affligeante, je cite, du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alger l'accuse de torpiller les relations entre les deux pays. Mais même si le ministre est très virulent envers l'Algérie, ce n'est pas lui qui prend les décisions de justice. Ce pouvoir est indépendant en France.
Et cet épisode récent s'ajoute à de nombreuses tensions, Paul, qui s'accumulent depuis 8 mois.
Ça avait commencé fin juillet dernier quand Emmanuel Macron annonçait soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. De quoi froisser Alger, qui est un allié des indépendantistes du Front Polisario dans cette zone. La relation s'était encore dégradée avec l'incarcération de Boualem Sansal mi-novembre dernier. L'écrivain franco-algérien, critique du pouvoir d'Alger, a été condamné fin mars à 5 ans de prison. Il a fait appel et Paris exige toujours sa libération. Le bras de fer continue puisque le ministre français des Affaires étrangères a rappelé mercredi que le gouvernement veut afficher de la fermeté face à Alger. Jean-Noël Barrot d'ajouter qu'il faudra un jour revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant.
Le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre. Henri Grouès, de son vrai nom, est accusé d'agression sexuelle et de viol, mais ces agissements ont débuté très tôt et l'Église savait. C'est ce que confirme le livre-enquête intitulé « L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint » publié ce jeudi et qui se base notamment sur des archives du Saint-Siège. Les actes de l'abbé Pierre étaient donc bien connus des plus hautes instances de l'Église, une protection qui a entravé la parole des victimes. Mais aujourd'hui, celles qui l'accusent ne sont pas surprises, Marion Ferrer.
Aucune surprise pour les victimes de l'abbé Pierre d'apprendre aujourd'hui que le Vatican était bien au courant de ses agissements. Toutes avaient conscience qu'Henri Grouès était protégé. Carole Damiani est psychologue, directrice de Paris Aide aux Victimes. Elle a aidé des hommes, des femmes agressées par l'abbé Pierre à se reconstruire.
Les victimes que j'ai pu accompagner savaient qu'il y avait un système qui bloquait la parole, qu'il y avait une chape de plomb autour de l'abbé Pierre.
Une protection dont le fondateur d'Emmaüs lui-même se vantait, lui qui était devenu un symbole populaire.
Certaines des victimes m'ont dit effectivement Il disait, de toute façon, je suis l'abbé Pierre, vous pourrez parler tant que vous voudrez, de toute façon, c'est moi qui aurai raison et on ne vous croira pas.
L'abbé Pierre est décédé. Impossible pour les victimes d'obtenir des aveux de sa part. Mais pour certaines, il est nécessaire que les plus hautes instances reconnaissent leurs erreurs.
C'est important pour elles que tout ce système organisé reconnaisse leurs erreurs, qu'ils ont participé, qu'ils ont été complices de ce qui s'est passé.
Au moins 2 enquêtes ont été menées par le Saint-Office au sujet de l'abbé Pierre. Cette congrégation au sein du Vatican est saisie uniquement en cas de fait gravissime.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Les élections au Canada, c'est le 28 avril prochain et à moins de 10 jours maintenant de ces élections fédérales, les chefs des principaux partis ont croisé le fer dans un débat en français. C'était mercredi dernier à Montréal, Nadi.
Voilà, pendant 2 heures, les politiciens ont débattu du coût de la vie, du climat, de l'immigration et des affaires étrangères. Et sans surprise, c'est le libéral Mark Carney qui a été la cible principale de ses adversaires, étant donné qu'il mène dans les sondages depuis plusieurs semaines. Il s'est fait attaquer par le chef conservateur Pierre Poilievre, qui l'a accusé d'être exactement comme son prédécesseur Justin Trudeau.
Vous êtes le conseiller économique à Justin Trudeau. Est-ce que vous niez ça?
Monsieur Poilievre n'est pas Justin Trudeau, moi non plus.
Mark Carney a aussi expliqué ce qu'il a accompli dans les dernières semaines pour tenir tête au président américain Donald Trump dans le contexte de la guerre commerciale avec Washington.
Et justement, Nadi, le sujet de cette guerre tarifaire ne pouvait être éclipsé lors de ce débat.
Tout à fait. Mark Carney a d'ailleurs souligné ce sur quoi il ne cédera jamais face au chef de la Maison-Blanche.
Jamais le gestion de l'offre, jamais la langue française, jamais la culture québécoise.
Et puis on le sait, le président Trump a à plusieurs reprises menacé la souveraineté du Canada en appelant à faire du pays le 51e État américain. Cela a poussé de nombreux Canadiens à privilégier l'achat local plutôt que de se procurer des produits américains. Mark Carney, le néo-démocrate Jagmeet Singh, Pierre Poilievre et le bloquiste Yves-François Blanchet ont tous confirmé lors du débat qu'ils participaient eux aussi à ce mouvement.
Quel produit vous n'avez pas acheté, M. Carney? Vous allez quand même...
Plus de vin, plus d'alcool américain, tout cela.
Je sais.
Oui, donc j'ai fait l'effort avec les pommes, oui. Avec très les bien. Fruits qu'on fait, avec les fraises.
Moi, c'est le bœuf. J'achète le bœuf canadien, c'est le meilleur bœuf au monde.
Le bœuf bio québécois n'est pas mauvais non plus.
On vient donc d'entendre les 4 participants au débat. Est-ce qu'on sait, Nadi, qui est sorti vainqueur de cet exercice?
Eh bien, selon plusieurs analystes, les chefs de parti ont offert une performance à la hauteur des attentes, mais sans nécessairement se démarquer pour faire bouger l'aiguille des sondages.
Nadi Mobarak pour Radio-Canada. On l'a appelé l'accord de Pâques. Le gouvernement fédéral belge s'est mis d'accord sur une série de mesures le week-end dernier. Il a bouclé un budget pour 2025 et il s'est notamment penché, Joël Meert, sur les allocations de chômage.
Oui, avec une mesure phare, la fin des allocations de chômage illimitées. Concrètement, le gouvernement de centre-droit, mis en place dans la foulée des élections de juin dernier, décide de limiter les allocations de chômage dans le temps. Objectif, amener un maximum de Belges à travailler, comme l'affirme le ministre de l'Emploi.
C'est vraiment le message que le chômage n'est pas un plan de carrière, qu'il faut chercher du travail. Il y a 170 000 emplois vacants aujourd'hui dans la construction, dans l'horeca, dans le transport, dans les titres-services. Il y a travail de disponible. Celles et ceux qui sont au chômage doivent maintenant comprendre qu'il faut travailler.
Concrètement, les allocations de chômage seront limitées à 2 ans à partir de l'année prochaine et à certaines conditions. Les plus de 55 ans qui ont travaillé minimum 30 ans ne seront pas exclus, mais ça représente tout de même plus de 100 000 personnes privées d'allocation dès le 1er janvier. Et pour ces demandeurs d'emploi, c'est inquiétant.
On est en recherche, mais on a l'impression d'avoir un petit ultimatum. Et si on ne trouve pas, c'est fini, quoi. Enfin, c'est compliqué. Ça fait peur parce que 2 ans, ça paraît long ainsi, mais en fait, ça passe vraiment très vite.
J'ai peur. Ça me met un coup de pression, parce que je dis pas que avant j'étais pas stressé de trouver un travail ou pas, parce qu'au bout d'un moment on a quand même envie d'avancer dans la vie, mais là ça me met une pression en plus sur le fait de trouver un travail.
Une partie de ces personnes exclues vont se tourner vers les CPAS, les Centres publics d'action sociale, des centres inquiets, eux aussi. Ils se demandent s'ils vont pouvoir faire face, même s'ils doivent recevoir plus de moyens. Jusqu'ici, la Belgique était le seul pays de l'Union européenne où les allocations de chômage, à certaines conditions, étaient illimitées dans le temps.
Et j'ajoute que le syndicat socialiste a décidé d'introduire un recours en justice contre cette limitation dans le temps des allocations de chômage. Le syndicat estime que sur base de la constitution belge, le gouvernement ne peut pas mettre fin à un droit accordé à durée indéterminée sans respecter un préavis de 2 ans. On va se quitter en Suisse cette semaine. Il va être question de la situation des gens du voyage. Elle refait parler d'elle, Pierre-Anne, et de manière spectaculaire.
En effet, le canton du Valais a déclenché le plan Cobra pour empêcher une quarantaine de caravanes immatriculées en France de pénétrer sur son territoire. Le plan Cobra, c'est la mobilisation de l'intégralité des forces disponibles, en l'occurrence 200 policiers mis à contribution pour bloquer le convoi sur l'autoroute et dévier en conséquence le trafic. Une autoroute qui sera restée fermée près de 8 heures. En début de soirée, les gens du voyage ont finalement accepté de rebrousser chemin.
Oui, le canton du Valais refuse donc d'accueillir les gitans ou les yéniches.
Eh bien, la seule place aménagée dont dispose le canton était déjà occupée. Et l'accord passé avec un privé pour un terrain a été refusé par la commune concernée. Or, ce canton refuse en effet d'accueillir des gens du voyage sans une autorisation en bonne et due forme. La socialiste Aude Rapin est choquée par cette politique restrictive et l'ampleur de cette intervention.
Ce qu'on a appelé le plan Cobra, c'est un plan de guerre quasiment. Dire qu'on a une politique tolérance zéro, c'est de nouveau stigmatiser, criminaliser ces populations. On a potentiellement entravé la liberté de se mouvoir et de séjourner sur notre territoire. Les moyens qui ont été engagés étaient disproportionnés.
Ministre valaisan en charge de la sécurité, Frédéric Favre défend bec et ongle l'action de sa police.
C'est pas beaucoup comparé au fait que si on doit intervenir lorsque des personnes s'installent sur des propriétés privées illégalement, ça dure des jours, des semaines, voire des mois. Donc c'est mieux d'intervenir de manière ciblée, avec les moyens qu'il faut, résoudre le problème définitivement. Et je crois que c'est ce qui a été fait par la police cantonale hier.
Le problème de fond, lui, demeure le manque de places aménagées pour les gens du voyage en Valais et ailleurs en Suisse.
Pierre-Anne Chauffat pour la Radio-Télévision Suisse. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de l'Action des Autres. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure, en compagnie des médias francophones publics.